Podcast de l'Avent, une lecture balsacienne pour patienter jusqu'à Noël. Le bal de Sceaux, par Honoré de Balzac, Paris, décembre 1829. À Henri de Balzac, son frère Honoré. Extrait 16 sur 24. Le vieillard, qui passait sa vie à faire jouer à sa nièce ces sortes de scènes, et qui les payait souvent par le prix d'une parure ou par l'abandon de sa loge aux Italiens, se complut cette fois à se laisser prier et surtout caresser. Mais, comme il faisait durer ses plaisirs trop longtemps, Émilie se fâcha, passa des caresses au sarcasme et bouda, puis elle revint dominée par la curiosité. Le marin diplomate obtint solennellement de sa nièce une promesse d'être à l'avenir plus réservée, plus douce, moins volontaire, de dépenser moins d'argent et surtout de lui tout dire. Le traité conclu et signé par un baiser qu'il déposa sur le front blanc d'Émilie, il l'amena dans un coin du salon, l'assit sur ses genoux, plaça la carte sous ses deux pouces de manière à la cacher, découvrit lettre à lettre le nom de Longueville et refusa, fort obstinément, d'en laisser voir davantage. Cet événement rendit plus intense le sentiment secret de Mademoiselle de Fontaine qui déroula, pendant une grande partie de la nuit, les tableaux les plus brillants des rêves par lesquels elle avait nourri ses espérances. Enfin, grâce à ce hasard imploré si souvent, Émilie voyait maintenant tout autre chose qu'une chimère à la source des richesses imaginaires avec lesquelles elle dorait sa vie conjugale. Comme toutes les jeunes personnes, ignorant les dangers de l'amour et du mariage, elle se passionna pour les dehors trompeurs du mariage et de l'amour. N'est-ce pas dire que son sentiment naquit, comme naissent presque tous ses caprices du premier âge, douces et cruelles erreurs qui exercent une si fatale influence sur l'existence des jeunes filles assez inexpérimentées pour ne s'en remettre qu'à elles-mêmes du soin de leur bonheur à venir? Le lendemain matin, avant qu'Émilie fût réveillée, son oncle avait couru à Chevreuse. En reconnaissant dans la cour d'un élégant pavillon le jeune homme qu'il avait si résolument insulté la veille, il alla vers lui, avec cette affectueuse politesse des vieillards de l'ancienne cour. « Eh, mon cher monsieur, qui aurait dit que je me ferais une affaire, à l'âge de 73 ans, avec le fils ou le petit-fils d'un de mes meilleurs amis ? Je suis vice-amiral, monsieur, n'est-ce pas vous dire que je m'embarrasse aussi peu d'un duel que de fumer un cigare ? Dans mon temps, deux jeunes gens ne pouvaient devenir intimes qu'après avoir lu la couleur de leur sang. Mais ventre de biche, hier, j'avais en ma qualité de marin embarqué un peu trop de rhum à bord, et j'ai sombré sur vous. Touchez-la, j'aimerais mieux recevoir sans rebuffade d'un Longueville que de causer la moindre peine à sa famille. » Quelque froideur que le jeune homme s'efforça de marquer au comte de Kergarouët, il ne put longtemps tenir à la franche bonté de ses manières et se laissa serrer la main. « Vous alliez monter à cheval ?» dit le comte. « Ne vous gênez pas, mais à moins que vous n'ayez des projets, venez avec moi, je vous invite à dîner aujourd'hui au pavillon Plana. Mon neveu, le comte de Fontaine, est un homme essentiel à connaître. Ah, je prétends, morbleu, vous dédommager de ma brusquerie en vous présentant à cinq de ses plus jolies femmes de Paris. Et jeune homme, votre fond se déride. J'aime les jeunes gens et j'aime les voir heureux. Leur bonheur me rappelle les bienfaisantes années de ma jeunesse où les aventures ne manquaient pas plus que les duels. On était gais alors. Aujourd'hui, vous raisonnez et l'on s'inquiète de tout, comme s'il n'y avait eu ni 15e ni 16e siècle.
Mais monsieur, n'avons-nous pas raison? Le 16e siècle n'a donné que la liberté religieuse à l'Europe et le 19e lui donnera la liberté pour...
Ah, ne parlons pas politique! Je suis une ganache d'ultra, voyez-vous, mais je n'empêche pas les jeunes gens d'être révolutionnaires, pourvu qu'ils laissent au roi la liberté de dissiper leur attroupement. »
À quelques pas de là, lorsque le comte et son jeune compagnon furent au milieu des bois, le marin avisa un jeune bouleau assez mince, arrêta son cheval, prit un de ses pistolets, et la balle alla se loger au milieu de l'arbre, à 15 pas de distance.
« Voyez-vous, mon cher, je ne crains pas un duel !»
dit-il avec une gravité comique en regardant Monsieur Longueville.
« Ni moi non plus !»
reprit ce dernier, qui arma promptement son pistolet, visa le trou fait par la balle du comte et plaça la sienne près de ce but.
« Voilà ce qui s'appelle un jeune homme bien élevé !»
s'écria le marin avec une sorte d'enthousiasme. Pendant la promenade qu'il fit avec celui-ci, qu'il regardait déjà comme son neveu, il trouva mille occasions de l'interroger sur toutes les bagatelles dont la parfaite connaissance constituait, selon son code particulier, un gentilhomme accompli.
« Avez-vous des dettes ?»
demanda-t-il enfin à son compagnon après bien des questions.
« Non, monsieur. »«
Comment ? Vous payez tout ce que vous est fourni ?»«
Exactement, monsieur. Autrement, nous perdrions tout crédit et toute espèce de considération. »
« Mais au moins, avez-vous plus d'une maîtresse ? Ah, vous rougissez, mon camarade. Les mœurs sont bien changées. Avec ces idées d'ordre légal, de kantisme et de liberté, la jeunesse s'est gâtée. Vous n'avez ni Guimard, ni Duté, ni créancier, et vous ne savez pas le blason. Mais, mon jeune ami, vous n'êtes pas élevé. Sachez que celui qui ne fait pas ses folies au printemps les fait en hiver. Si j'ai 80 000 livres de rente et 70 ans, c'est que j'en ai mangé le capital à 30 ans. Oh, avec ma femme, en tout bien tout honneur. Néanmoins, vos imperfections ne m'empêcheront pas de vous annoncer au pavillon Plana. Songez que vous m'avez promis d'y venir et je vous y attends.
Quel singulier petit vieillard, se dit le jeune Longueville. Il est vert et gaillard, mais quoi qu'il veuille paraître bonhomme, je ne m'y ferai pas.